Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard. Thème du message, le bouc émissaire.
Nous allons prendre quelques versets, très peu, et nous allons bien méditer sur la signification de Pâques. Voilà, pour beaucoup, Pâques, c'est quelque chose de très vulgarisé, enfin de tout simplement partie des fêtes dans l'année, mais sans autre. Et la Bible nous en parle, elle nous enseigne, et puis je pense que pour les croyances, ça a une signification particulière dont il est bon que nous nous rappelions et prenions toute la mesure de ce que Dieu a accompli pour chacun d'entre nous, pour notre salut. Alors Matthieu, voilà, évangile de Matthieu, verset 45, et nous allons étudier le sujet, essayer de comprendre ce que Dieu peut nous faire passer comme message, et c'est certainement un des plus grands messages de l'évangile. Matthieu, je ne vous ai pas donné les chapitres. Ah, 27. Voilà.
Merci.
Voilà. Chapitre 27 et le verset 45. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, ça sera amplement suffisant pour notre méditation, et je voudrais que nous fixions notre pensée sur ces paroles que Jésus nous a laissées, enfin ça fait partie des sept paroles que Jésus a laissées, donc, a données au monde, eh bien, en mourant sur la croix. Je dirais tout de suite qu'un des traits caractéristiques de la nature humaine est que le coupable, même convaincu, cherche à rejeter sa culpabilité sur autrui pour se disculper. Ça, c'est, on pourrait dire, quasi automatique. C'est toujours l'autre qui a tort. Alors, c'est soit la société, c'est soit les autorités, c'est soit les parents, c'est soit ceci. C'est toujours comme ça, hein. Depuis que le monde est monde, c'est toujours ce doigt accusateur en disant « ce n'est pas moi, mais c'est l'autre ». On sait ce que ça veut dire. Et il en est ainsi depuis toujours, et les civilisations, les générations peuvent passer. La constatation est toujours la même. Je voudrais simplement faire un bref rappel. Vous savez que tout a commencé quand Adam a accusé sa femme, Ève, eh bien d'avoir mangé du fruit défendu. Vous savez ce qu'il a dit à ce moment-là? Et il l'a dit à Dieu. Il prend Dieu pour témoin, et il va accuser Dieu, il va accuser aussi Ève. Il va dire, mais la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Pauvre Adam, ce n'était pas de sa faute. C'est toujours la même chose. Et puis, quand on tourne les pages de notre Bible, c'est ensuite, et on ne va pas très loin, hein, dans la postérité d'Adam, on s'aperçoit que Caïn se défend de ne pas être le gardien de son frère Abel, qu'il vient juste à l'instant d'assassiner. Voilà, je n'ai rien fait, et vous savez que c'était une triste histoire, hein, qui avait quand même un arrière-plan cultuel, puisqu'il s'agissait d'offrandes faites à Dieu. Et on voit que Caïn va dire « Mais non, non, c'est certainement un accident, mais voilà. » Il y en a d'autres exemples. Je cite par exemple le roi Saül, donne libre cours à sa méchanceté, et la Bible nous dit combien il a été méchant, et il va la justifier tout simplement en persécutant son rival David. Et ça va durer des années et des années, parce qu'il se sent menacé par David. David a reçu l'appel de Dieu, et il n'est pas à l'aise, le roi Saül. Alors il va véritablement faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire retomber tous les malheurs qui lui arrivent, tous les malheurs de sa royauté, tous les malheurs de son royaume sur David. Et puis, on en arrive à ce que nous allons développer maintenant. Plus tard, beaucoup plus tard, après toutes ces histoires, les Juifs, unanimement, envoient Jésus à la croix pour l'unique raison qu'il leur a dit simplement la vérité. Les Juifs, vous savez, priaient pour que Dieu leur dise la vérité. Et cette vérité leur est parvenue dans sa perfection à travers celui que nous connaissons bien dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire la personne de Christ, qui donne les paroles de Dieu, qui donne la pensée de Dieu, la volonté de Dieu d'une manière extraordinaire. Et nous voyons que, eh bien, pour se débarrasser de la vérité qu'ils entendent, de ce Jésus qui fait des miracles par-ci, par-là, de ce Jésus qui est là, eh bien, descendu du ciel et qui fait la démonstration, alors pour se débarrasser de lui, on va lui mettre tout sur le dos et on va se débarrasser de lui. Ce qui nous amène à considérer, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que ça nous amène à une réflexion, c'est que tous les crimes, tous les meurtres, les violences, tous les génocides d'hier et d'aujourd'hui, quand je dis génocide, c'est quand même eh bien, de l'extermination à grande échelle. Alors, tout cela, tout ce qui a été perpétré à travers, eh bien, dans notre monde, toutes ces choses ont un point commun, c'est l'accusation de l'autre pour ne pas avoir à s'accuser soi-même, tout simplement. On rejette sur le compte des autres, et eh bien voilà ce que nous sommes parfois les artisans, nous-mêmes les artisans. Vous savez, il y a eu des pages sinistres dans notre histoire, et ne serait-ce que dans notre histoire récente, dans ce XXe siècle, où le monde entier a pris à partie la nation d'Israël, jusqu'à l'extermination industrielle de... On peut dire ça comme ça. Et ça, c'est une abomination. Parce que, voilà, on avait dit que ces gens étaient les coupables de toutes les misères de notre monde. Et puis, ça a été ensuite, ou avant, les Arméniens. Et puis, aujourd'hui, qu'est-ce que l'on pourrait dire? Ça serait la même chose. Je suis sûr que de par le monde, avec toutes les informations qui nous viennent, eh bien, on trouve toujours quelqu'un qui va payer pour les autres. Néanmoins, la conscience humaine sait, et je voudrais quand même le dire, elle sait les choses, mais n'admet pas. C'est pourquoi elle rejette. Mais on s'aperçoit que l'homme est d'une grande ingéniosité lorsqu'il déploie finalement eh bien, tout son savoir, sa connaissance, pour faire porter la responsabilité à son semblable. Et il est très intelligent. Alors, les rumeurs, à travers la diffamation, à travers toutes sortes de choses que l'homme échafaude pour construire, qui en apparence construire quelque chose, une accusation ou des chefs d'inculpation, pour eh bien, précisément faire en sorte que ça tienne debout, mais à un moment ou à un autre, ça ne peut rester, ça ne peut subsister. Alors, pour nous dire tout simplement, après cette introduction, que l'homme ne peut pas porter son propre péché. Et il y a une expression tout à fait particulière sur laquelle nous allons développer notre réflexion. Comme il ne peut pas porter cette responsabilité, ce qu'il est lui-même, alors on dit qu'il cherche un bouc émissaire. Vous avez entendu parler de cette expression. Bouc émissaire. Bouc émissaire est devenu une expression courante du langage et désigne celui sur qui l'on fait retomber la faute des autres et qu'on accuse de tous les malheurs. Alors, on appelle ça aussi, c'est la chasse aux sorcières, vous comprenez, hein, comme au Moyen-Âge. Et on est prêt à faire n'importe quoi dans ce domaine. Et c'est une expression qui est fort connue et dont l'origine d'abord est juive, et par surcroît à les bibliques. Je voudrais que nous explicitions un petit peu cette expression, et je vous invite à me suivre dans le livre de Lévitique, au chapitre 16, et nous allons voir que dans l'histoire de la Bible, eh bien Dieu avait pensé à la chose, et cette chose pensée par Dieu il y a très très longtemps, dans la constitution d'Israël en tant que nation, en tant que peuple, hein, du temps des patriarches, du temps de Moïse, eh bien, il y avait véritablement cette notion-là. Alors, on va lire chapitre 16, versets 5 à 10, et puis après on reprendra un autre texte. Il est question du grand sacrificateur, le grand prêtre d'Israël. Il nous est dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bouc pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Hazaël. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel, et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Hazaël sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Hazaël. Et je continue au verset 20 de notre chapitre. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée et il sera chassé dans le désert. Je voudrais faire une précision en ce qui concerne l'animal, le bouc, qui sera chassé dans le désert. Il nous est dit qu'il est chassé pour Hazaël. Voilà, pour Hazaël. Le mot Hazaël a pour signification émissaire. On en revient et on comprend naturellement dès lors cette expression, ou tout simplement le renvoi, le retranchement total ou le bannissement. Alors, c'est intéressant parce que je crois que la Bible s'explique par elle-même. Ça fait partie de l'histoire des Juifs, l'histoire d'Israël, il y a très 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 longtemps. Dans le domaine de l'expiation des péchés du peuple juif. Et dans cet ancien Israël, une fois par an, j'explique, au jour du pardon, parce que Dieu avait décrété qu'il y aurait un jour pour le pardon, ou, si vous aimez mieux, l'expiation, qui existe toujours dans la nation et dans le peuple hébreu aujourd'hui, que l'on appelle le Yom Kippour. Vous avez entendu parler de ça, Yom Kippour, naturellement, pardon, expiation. Alors le grand prêtre, qui n'est autre que le premier, pour l'instant, c'est-à-dire Aaron, alors à ce moment-là, il prenait un bouc, il posait ses mains sur sa tête, et il confessait sur lui tous les péchés du peuple, et il devait y en avoir. Ça devait certainement prendre un certain temps, alors il prononçait les péchés du peuple. Les péchés peut-être pour lui-même, pour sa maison, pour sa famille, les péchés des sacrificateurs également, parce que ça restait très humain et très charnel tout ça. Alors il les mettait avec une déclaration, une profession, il les déclarait sur la tête du bouc. Ensuite, le bouc était chassé dans le désert, il y avait quelqu'un qui était chargé de le chasser. Même si l'animal voulait rester dans la compagnie des hommes, eh bien on faisait en sorte de le battre ou de le frapper, et là eh bien on essayait de l'éloigner le plus possible pour qu'il disparaisse de la société des hommes. Et cet animal, il partait, il prenait sur lui et il emportait avec lui les fautes des hommes, et il devenait maudit. Voilà, un être maudit. Il y a aussi une seconde phase, c'est que le grand prêtre prenait aussi le deuxième bouc. Alors à ce moment-là, il le sacrifiait, selon les prescriptions qui étaient données à la nation, et il répandait le sang pour le pardon. Alors, il y avait tout un cérémoniel, il y avait tout un rituel, et le sang de cet animal qui avait été égorgé, eh bien, était mis là à différents endroits, et ça avait valeur, tout simplement, eh bien, d'acceptation pour Dieu, eh bien, de son pardon, de la rémission des péchés. On passe sur l'histoire, et des siècles plus tard, ces cérémonies vont devenir caduques. Et elles ont pris une autre dimension. J'explique une histoire que vous connaissez, parce que c'est véritablement la signification profonde, essentielle, de cette fête de Pâques. Un jour, à Jérusalem, on a saisi un homme. Cet homme s'appelle Jésus. C'est un soi-disant prophète. Il vient de la Galilée et il se dit le Messie, ou on le dit le Messie. Enfin, de par ce qu'il apporte, ce qu'il dit, ce qu'il fait, certains y discernent l'envoyé de Dieu, l'envoyé de l'Éternel. Et pendant 3 ans, ce prédicateur de Galilée va faire des choses merveilleuses. Il va dire des choses ineffables. Il va faire la démonstration que Dieu est avec lui. À travers toutes sortes de choses qui nous sont consignées, qui nous sont rapportées dans toutes les pages de notre évangile. Le peuple juif dans son ensemble le condamne à être crucifié. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure en préambule, il dit des choses qui dérangent. Il bouscule la tradition. Il est en train de mettre à mal, finalement, les institutions que les hommes ont pris beaucoup de soin à élaborer, à mettre sur place, et en dénonçant, finalement, une grande hypocrisie dans ce que les hommes peuvent avoir dans leur rapport avec Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà la condition religieuse et spirituelle d'Israël lorsque Jésus est venu. Et Jésus leur a dit. Et particulièrement, il a stigmatisé ces hommes de la religion, ces notoriétés. Et ça ne leur plaît pas. Alors, on ne va pas chercher, on ne va pas faire de détails. On va déclarer qu'il est coupable. Il se fait lui-même Dieu. Alors, c'est un blasphème, c'est un sacrilège. Et on va le traîner jusqu'à Pilate. Parce que les Juifs n'ont pas le droit de mettre à mort. Et il n'y en a qu'un, c'est le procureur romain. Lui peut décréter la mort d'un citoyen, d'un homme. Alors on va le mettre sur une croix. Et sans le savoir, voilà que s'accomplit, et c'est ça justement le miracle de Pâques, voilà que s'accomplit pour tous les hommes le vrai pardon promis par Dieu. Pendant des siècles et des siècles, le contexte religieux d'Israël a sacrifié des centaines, des milliers d'animaux, des taureaux, des boucs, des agneaux, des pigeons, enfin toutes sortes. Le sang a coulé et on a du mal à s'imaginer ce que pouvait être la fête de Pâques à Jérusalem dans l'ancien Israël et même du temps de Jésus. De voir tous ces gens qui venaient de partout, qui achetaient des animaux dans les alentours de Jérusalem et qui allait sacrifier. Ça devait être quelque chose d'assez terrible et redoutable, de par le sang. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais ça devait être quelque chose. Mais c'était comme ça, tout simplement. Et il y a tout un enseignement, c'est quelque chose de très pédagogique, naturellement. Sur le mont Golgotha, nous l'avons lu il y a un instant, soudainement, le soleil va s'obscurcir. Il va s'obscurcir pour faire place à une nuit angoissante. Imaginez-vous, il nous est parlé dans notre texte depuis la 6e heure, c'est-à-dire midi, jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire 3 heures, les ténèbres ont envahi la terre. Il y a un sens à tout cela, naturellement. Et ça pose naturellement une question, des questions. Sur la croix du milieu, le condamné appelé Jésus va laisser échapper un cri de désespoir. On peut peut-être parler de désespoir. Il dira ceci: « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est toujours été une des paroles les plus énigmatiques parmi les 7 que Jésus ait prononcées à la croix. « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » Qu'est-ce que ça signifie ? Ce Dieu, ce Père céleste qui avait accompagné Jésus, qui avait frapper la terre de miracles, de délivrance, de guérison, avec des messages d'amour, avec des paroles sublimes, Voilà qu'au dernier moment, au moment où Jésus aurait véritablement besoin de voir le ciel ouvert pour le soutenir dans ce moment épouvantable, voilà qu'il prononce, il dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est troublant, assurément. D'autant plus que cette même voix, quelques jours auparavant, confessait ceci, ce qui montre un petit peu tout ce qu'il peut y avoir, eh bien, d'inquiétant, de troublant, même d'équivoque. Cette même voix disait « Moi et le Père, nous sommes un ». Or, à ce moment-là, c'est comme s'il y avait une séparation, c'est comme s'il y avait une division, c'est comme s'il y avait un rejet, c'est comme s'il y avait là, eh bien, un abandon. On pourrait dire, parce que c'est le mot, un abandon. Alors, que s'était-il passé ? Que s'était-il passé ? Jésus, subitement, est abandonné du Père, mais pourquoi est-il abandonné de son Père céleste ? Puisqu'il a toujours voulu faire sa volonté. Et même jusqu'à Gethsémané, nous voyons Jésus pressentant finalement eh bien, les souffrances indicibles qu'il va connaître sur la croix, alors qu'il est question d'une coupe qu'il peut repousser, qu'il a tendance, qu'il a la tentation peut-être de repousser par trois fois. À un moment donné, Jésus dira et déclara « Mais que ta volonté soit faite ». Voilà. Moi et le Père, nous sommes un, nous sommes unis. Et là, à ce moment-là, eh bien, Jésus va dire le contraire. Mais pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors pourquoi ? Mais ce n'est pas temps de répondre pourquoi, on va le comprendre aisément. Ce serait plutôt de dire, mais pour qui ? Pour qui ? Jésus est chassé, selon l'image que nous avons prise tout à l'heure, dans l'affreux désert de la mort qui le guette. Voilà. Ce n'est pas un désert géographique, c'est un désert moral, c'est un désert spirituel, c'est un désert affreux comme nous ne pouvons pas nous imaginer, un désert d'angoisse, de désespoir, celui de la mort. Et je crois qu'il n'y a pas certainement de plus grand désert que la mort, parce qu'on se retrouve tout seul à ce moment-là. Et on apprend que le seul homme juste au monde est abandonné. Il est abandonné solitaire dans l'océan immense de la souillure, et c'est là où nous comprenons pourquoi, de la souillure, de la corruption et du péché. Parce que dans ce désert-là, il y a tout ce qu'il peut y avoir d'abominable et d'abject depuis l'histoire de la création de l'homme sur la terre, et particulièrement depuis le chapitre 3 du livre de la Genèse. À cette heure précise, les ténèbres pénètrent non seulement et se répandent dans le monde, sur la terre, mais ces mêmes ténèbres pénètrent jusque dans l'âme de Jésus, jusqu'à s'apercevoir que son Père l'abandonne, mais que ses amis l'ont tous aussi abandonné, et le ciel reste sourd. Il est fermé. L'univers entier semble s'être concerté pour se détourner de lui. Vous connaissez l'histoire du bouc qui est chassé pour Azaël. Voilà. Rejeté. Jésus, à ce moment-là, à cette heure-là, souffre cruellement dans son corps. Mais il y a une souffrance encore beaucoup plus grande, c'est celle de son âme. Et dans son âme se livre un combat autrement plus âpre et plus terrible. Parce que nous allons comprendre les raisons profondes de ce que, pourquoi le Père a abandonné son Fils. Écoutez bien. À cet instant, Jésus porte en lui et sur lui, quelque chose d'infâme, quelque chose de répugnant, d'immonde, et c'est lui qui le porte. Dans le passé, tous les ans, le grand sacrificateur prenait un bouc, je le rappelle, et il confessait sur la tête de cet animal tous les péchés du peuple, les uns après les autres, sans en oublier aucun. Et au bout d'un certain temps, eh bien, on le chassait. Mais ça se faisait tous les ans. Il n'y avait jamais de pardon complet, total, parce que la nature humaine fait que nous sommes dans un état de faiblesse, de grande faiblesse, d'immense faiblesse devant la tentation et devant tout simplement eh bien, le péché. Ce quelque chose, vous en souviendrez, Paul l'exprime dans 2 Corinthiens chapitre 5 et au verset 21. Écoutez bien cette parole, c'est une parole extraordinaire. Écoutez. Celui qui n'a point commis de péché, Entendez par là Jésus, le juste, le saint, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, celui qui n'a pas commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, pour tous les hommes, sans exception, où qu'ils se trouvent, quelle que soit sa génération, quel que soit son siècle ou son temps, pour tous les hommes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est à cet instant que Jésus va accomplir incontestablement sa plus grande mission pour l'humanité entière. La croix, c'est quelque chose qui est essentiel. La croix marque la volonté de Dieu de sauver les hommes. Tout simplement. Jésus va être fait le bouc émissaire que l'on accable de tous les péchés, de toutes les infamies, de toutes les vilenies, de toutes les dépravations et corruptions. En un mot, il porte le mal commis pour toute l'espèce humaine. Et ça se fera une fois. Il n'y aura pas d'autre Messie. Il n'y aura pas d'autre Rédempteur. Il n'y aura pas d'autre Sauveur, comme le dit le livre des Hébreux. Et ce n'est pas pour rien que c'est écrit dans le livre des Hébreux en particulier. Qu'une fois pour toutes, Jésus a donné sa vie, son sang a coulé, une fois pour toutes, en se souvenant, en comparaison, de ce que tous les ans, il fallait qu'il y ait des milliers d'animaux qui soient sacrifiés. Maintenant, c'est fini. C'est terminé. On revient à cette parole, pourquoi m'as-tu abandonné ? Alors Dieu l'abandonne. Et si vous me permettez l'expression que nous avons lue dans Lévitique, Dieu le chasse. Ouais. Jésus est chassé. Pourquoi Dieu le chasse-t-il ? Parce que lorsque le Père regarde le Fils, regarde Jésus Sauveur, il ne voit plus qu'une chose, un océan immonde, un océan immense, infini de péchés. Et quand on sait que dans le livre d'Habacuc, le caractère même de Dieu nous est dépeint, il nous est dit que les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. À ce moment-là, le Père du haut du ciel détourne ses regards. Parce que pour un Dieu qui est saint, qui est juste, qui est toute pureté, ce n'est pas possible. Et Jésus se trouve seul, se retrouve seul. Prophétiquement, Jérémie avait annoncé ce type de souffrance du Christ, c'est-à-dire celui qui paie pour les autres. Il y a un texte que j'ai toujours été sensibilisé à ce texte, c'est dans Lamentations chapitre 1 et verset 12, écoutez cette parole. Et c'est un cri, c'est prophétique, c'est une préfiguration de ce que Jésus accomplirait. Écoutez bien, la deuxième partie du verset 11, c'est une prière. « Voix éternelle, regarde comme je suis avili. Je m'adresse à vous tous qui passez ici. Regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur, à celle dont j'ai été frappé. L'Éternel m'a affligé au jour de son ardente colère. D'en haut, il a lancé dans mes os un feu qui les dévore. Il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière. Il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. Sa main a lié le joug de mes iniquités. Elles se sont entrelacées, appliquées à mon cou. Il a brisé ma force. Le Seigneur m'a livré à des mains auxquelles je ne puis résister. Contemplez Jésus à la croix. Eh bien, vous avez tout à fait ce que nous venons de lire il y a un instant. Regardez si les douleurs, aussi grandes que celles dont je porte, oui, à travers les coups, à travers les insultes, à travers les crachats, à travers tout ce que nous pouvons découvrir dans la passion du Christ, regardez si les douleurs semblent à la mienne. Il y a un autre prophète qui nous dépeint admirablement les souffrances de Christ sur le calvaire. Vous le connaissez, il s'agit d'Ésaïe, au chapitre 53. Ces paroles-là sont éloquentes de vérité. Et je voudrais les partager avec vous simplement. Écoutez, je ne vais pas dire tout, mais prenons le verset 4. Et là, nous avons le pourquoi, et nous savons pourquoi Jésus est mort. Les raisons de sa mort, les raisons de cet abandon de Dieu, mais pour une cause que nous allons découvrir. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Vous avez bien remarqué, c'est à cause de nous, c'est pour nous, ce sont les nôtres, ce n'est pas les siennes. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Parce que quand on ne comprend pas le plan de Dieu et sa signification et son sens, alors on accusera toujours. On dira, mais il a été puni. Faisons attention au jugement d'autrui. Parce que quelquefois, nous portons des jugements en disant, voilà, il est arrivé ceci ou cela à un tel ou un tel, il a été puni. Faites-donc attention, parce que je crois qu'il faut être beaucoup plus modéré. Il y a des choses quelquefois que nous ne comprenons pas, et soyons compatissants. Mais il était blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le bénéfice que nous en avons, eh bien c'est grâce à lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et vous savez que tout l'évangile est plein de cette parole, dans ses meurtrissures nous sommes guéris. Et Jésus en a fait la démonstration à travers des centaines et peut-être des milliers de gens qui ont été guéris à cause de ses meurtrissures. Et lui, il l'a fait par anticipation. Au verset 8, il est dit ceci, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?» Auquel des Juifs Jésus s'est-il adressé? Et quels sont les Juifs qui l'ont reconnu? Au contraire, ils ont crié, « Crucifie, crucifie-le !» Et c'était précisément pour le peuple, c'était précisément pour ces gens-là. Ils ne l'ont pas reconnu. Qui a cru et qui a reconnu? Le verset 10, il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Écoutez bien, il a plu à Dieu de l'abandonner. Il a plu à Dieu que Jésus dise, eh bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelque chose de déterminé, de volontaire. Et après avoir livré sa vie en sacrifice dans cette abnégation pour le péché, il verra une prospérité et il prolongera ses jours. Qui sait cette prospérité? C'est chacun d'entre nous qui croyons que Jésus est mort à notre place. Ouais. La postérité de Jésus, c'est l'Église. C'est l'Église des croyants, ce sont les rachetés. Ce sont tous ceux et toutes celles dont nous sommes et dont nous avons mis notre confiance complète et totale parce que nous croyons que c'est le seul moyen. Tout simplement. C'est pourquoi je lui dirai, verset 12, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, écoutez bien, et il a intercédé pour les coupables. Il a commencé déjà sur la croix. Lorsque, première parole, il a dit ceci, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. C'est une parole qui vaut encore pour aujourd'hui, qui vaut pour nous, qui vaut pour moi, qui vaut pour tous les hommes qui lisent la Bible, qui découvrent la Bible, qui s'approprient tout simplement par la foi le sacrifice de Jésus. Il a intercédé pour les coupables. Et c'est ce qui vaut que, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons tout simplement eh bien, la grâce de son pardon. Tout simplement. Alors, Jésus devient le péché incarné, nous l'avons dit il y a un instant. Tout ce que le diable a pu dénaturer, pourrir, avilir, salir, est déposé sur Jésus. Et Jésus goûte à cet instant jusqu'au fond, lit de contact avec la pourriture du mal. C'est pour ça que le Père détourne le regard. Jésus ressent tout le poids de torture, de regrets, d'amertume, les larmes, le remords, les consciences tourmentées des hommes, de tous les temps. C'est lui qui porte tout cela. Il ne fallait pas que ce soit un animal, c'était fini cela. Parce que ce sang-là n'arrivait jamais à ses fins. Il fallait que ce soit un homme. Non, je précise. Il fallait que ce soit Dieu qui paie le prix le plus fort. Dieu, notre Créateur, devient notre Dieu sauveur. Et c'est lui-même qui vient pour que nous soyons sauvés. Il nous a déjà donné la vie, le souffle. Maintenant, il fallait qu'il y ait une vie nouvelle, qu'il y ait une renaissance, qu'il y ait un renouveau, qu'il y ait une nouvelle naissance. Et on va y arriver. En quelque sorte, une résurrection. Parce que vous savez, la résurrection est aussitôt après Pâques. Hein. Aussitôt après Pâques. Alors Jésus, le saint et le juste, est maintenant le coupable, afin que tous les coupables du monde entier, mais les vrais, eh bien soient absous, simplement. Mais il y a une clé, il y a une condition, accessible à tous les hommes, elle est compréhensible. C'est tout simplement la foi. Ce n'est pas le mérite. Ce n'est pas se faire valoir d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas notre propre justice. C'est tout simplement la foi. Je crois en Jésus qu'il a donné sa vie pour moi et je suis sauvé. Je suis sauvé parce que je le crois. Je n'ai pas besoin de faire autre chose. Je suis sauvé par la foi. L'apôtre Paul l'aura bien compris, lui le pharisien. Lui, l'ennemi du christianisme, l'ennemi du Christ et de ses disciples, il dira « Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. » C'est par le moyen de la foi, ce ne sont pas par les œuvres, afin que personne ne se le glorifie. Et je trouve que c'est une parole sublime, magnifique. Lui, Paul l'a compris. Alors, à combien plus forte raison, les hommes d'aujourd'hui, nous pouvons le comprendre. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est le don de Dieu. Un don, un cadeau, immérité. Je reprends à ce que disait Ésaïe, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment, et il s'est livré lui-même à la mort, et il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il a intercédé pour les coupables. La mort va atteindre d'ici quelques instants celui qui n'aurait jamais pu mourir. Parce que ça pose le problème de la mort, le pourquoi de la mort. Jésus n'aurait jamais, non seulement dû mourir, mais il n'aurait jamais pu mourir. Parce que la mort ne peut frapper et atteindre que le pécheur. Dans Genèse, chapitre 2, Dieu dit à l'homme, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, » qu'est-ce qu'il est dit ?« Tu mourras. » Ça, c'est un mystère. Hein. Vous voudrez bien avoir l'explication. La Bible, dans ses pages, nous dévoile une partie de ce mystère. De cette grand questionnement humain. Et nous sommes au fait en expliquant la signification de Pâques, la signification de la passion du Christ. Et Paul ajoutera ceci, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Les deux. Qu'est-ce que nous choisissons ? Le salaire du péché, c'est la mort. Je pêche. Donc, irrémédiablement, je meurs. Je vais mourir, et jusqu'ici, depuis les temps immémoriaux, tous les hommes sont passés par la mort. Il n'y a rien à faire. Et par contre, il y a une promesse inestimable, une promesse inouïe, promesse de vie. Le don gratuit en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Il y a comme la contrepartie, mais une dimension infiniment plus grande en ce qui concerne la vie, la mort, la vie tout simplement. Cette mort, que l'on appelle la reine des épouvantes, a été depuis Adam la cause d'un océan de larmes et de désespoir parmi les hommes. Et c'est quelque chose de terrible, la mort. Il faut bien le reconnaître. On n'est pas insensible, on n'est jamais indifférent. Elle prend quelquefois des proportions inouïes. Lorsque les hommes se concertent pour se faire la guerre et qu'il y a là sur les champs de bataille des milliers, voire des millions de morts, où le sang, où la terre est abreuvée par le sang des hommes, c'est la mort. Alors on parlera de la maladie, on parlera de l'accident, on peut parler de tout, même la mort naturelle. Et Paul signera cette parole, il dira ceci, « Car par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. » Et vous savez pourquoi ? Parce que Paul l'ajoute, parce que tous sont péchés, tout simplement. Aussi logique que tragique. Cette mort va frapper Jésus parce qu'il a pris volontairement notre place. Injuste, écoutez bien, injuste qui méritait de vivre et mort à la place d'homme injuste qui méritait de mourir. On peut le décliner de cette manière. Et c'est ça, la croix. C'est ça, Pâques, tout simplement. Alors, je termine. Simplement, que Jésus est mort pour que nous puissions vivre. Le but de Dieu en nous créant à l'origine, c'est que l'homme vive. Et le contraire s'est produit. Par la défection de l'homme, par l'abandon de l'homme, de son Dieu. Jésus est mort pour nous servir de rançon. On sait que c'est quelque chose d'effroyable lorsqu'il y a des demandes de rançon. Hein ? On vole un homme, on vole une femme, on vole un enfant, et ensuite on demande, eh bien, à ses proches de payer une somme d'argent. On paie le prix. Jésus a payé le prix, c'est pourquoi il est appelé sauveur, et que l'on ajoute, il est appelé aussi le rédempteur. Rachat, la notion de rachat. Si vous voulez avoir une bonne notion de l'évangile et de la conception d'un salut et d'un sauveur qui rachète, eh bien, lisez le livre de Ruth, un livre formidable sur le rachat. Il y avait une dette que nous ne pouvions jamais payer. Nous ne pouvions jamais nous acquitter. Quelqu'un est venu à notre place devant Dieu parce que Dieu est un Dieu justice, mais son amour et sa miséricorde est supérieure à sa justice. Alors, quelqu'un est venu en disant « Je paie pour eux ». Et Dieu nous a remis une lettre de libération où il y a marqué « Acquitté ». Vous êtes d'accord ? Nous sommes acquittés. Hein ? C'est Jésus qui nous a acquittés. Jésus est mort également pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. Ouais. Le Yom Kippour, c'est tous les jours. Le pardon, c'est tous les jours pour nous. Est-ce que nous sommes parfaits ? Nous péchons tous les jours. Nous savons que nous péchons. Bien sûr. Heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Ouais. Mais pas à la manière de toutes les cérémonies de l'ancien Israël. Pas d'une manière religieuse, mais tout simplement en saisissant par la foi ce que nous savons. Et maintenant nous savons. Et non seulement nous savons, mais nous croyons et nous le gardons. Jésus est mort pour que Dieu nous épargne. Parce que le mot Pâques, ça veut dire épargner. Ça veut dire passer outre. Tout simplement. Je finis. Jésus a pris sur lui à la fois la révolte des hommes et la colère de Dieu. Les deux. Vous savez que la révolte, c'est de la colère. Hein. Mais la colère de Dieu, c'est une colère qui est juste. La révolte des hommes, la colère des hommes est injuste. Elle ne se justifiera jamais. Et Jésus a pris tout cela sur lui. C'est pourquoi, eh bien, il a ressenti cette nécessité dans cette prière terrible de dire « Mais mon Dieu, moi, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand nous avons affaire à des gens en colère ou des gens révoltés ou des gens en rébellion, c'est terrible. Et Jésus lui a pris tout cela sur lui, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'il est à la fois le bouc émissaire et il est aussi l'agneau du sacrifice. Il y a les deux. L'agneau du sacrifice. Il y avait deux boucs du temps d'Aaron. L'un était chassé dans le désert et l'autre était sacrifié. C'est ça, Pâques. C'est compliqué ? C'est difficile ? Qu'est-ce que les hommes ont rajouté pour perdre, finalement, eh bien, voiler la signification d'un plan aussi simple et aussi beau que celui que nous sommes en train de revoir et de redécouvrir, tout simplement, peut-être de réapprendre à travers une simple lecture de deux versets dans l'Évangile, tout simplement. Le bouc émissaire et l'agneau du sacrifice. Alors, condamné à mort, un autre a pris notre châtiment. Je parle de nous, hein. Nous, condamnés à mort. Qu'est-ce que nous allons faire ? Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Vous savez qu'il n'y a rien à faire. Alors, ça peut-être réjouir certaines personnes en disant « Mais votre évangile, qui n'est pas notre évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ. » Ça révulse les gens parce que l'homme, comme il a toujours cette tendance à vouloir faire les choses pour se racheter, ou se rattraper, ou accuser les autres. C'est comme ça que nous avons commencé notre méditation. Alors, il faut toujours qu'il ait le sentiment d'avoir mis la main quelque part en disant « Mais voilà, tu sais, j'ai fait ceci, mais c'est vraiment ma contribution. Alors, en raison de cela, eh bien, tu ne peux me pardonner. » ça ne rentre pas en ligne de compte aux yeux de Dieu. Et oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les dernières paroles de la croix, Jésus a dit aussi cette parole. Tout est accompli. Alors si c'est accompli, qu'est-ce que nous avons à rajouter? Qu'est-ce que nous avons à mettre en doute? Qu'est-ce que nous avons à faire de plus? Puisque Jésus a laissé tomber ses paroles avant de rendre l'esprit, il a dit, mais tout est accompli. Alors si tout est accompli, je termine sur cette pensée, toujours l'apôtre Paul, il est très riche dans ses pensées de salut. Si tout est accompli, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que nous incliner. Nous ne pouvons que bénir le Seigneur, nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que le magnifier, l'exalter, l'adorer, parce que Paul affirmera ce parole que vous connaissez bien, qui doit être tous les jours au fond de notre cœur, parce que cette parole, elle nous fait vivre. C'est dans Romains, chapitre 8, verset 1er, où il nous est dit « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Alors, puisqu'il n'y a plus de condamnation parce que tout est accompli, qu'est-ce qu'il nous reste? Tout simplement, ce que je viens de dire, de bénir le Seigneur de nous avoir sauvés et de le recevoir comme notre sauveur personnel si ce n'est pas fait, de le considérer comme le Seigneur de notre vie et de savoir que nous partagerons son éternité. Il est mort pour chacun d'entre nous. Tout est accompli puisqu'il n'y a plus de condamnation. Et nous sommes des hommes libres. Nous avons été pardonnés, nous sommes pardonnés. Nous serons encore pardonnés parce que nous restons des hommes et nous tenons ferme dans cette foi et cette confiance que finalement ce qui avait été fait au premier jour de la Bible, Genèse, est maintenant remis sur pied, reconstruit. C'est ça notre salut. C'est ça le salut des enfants de Dieu. C'est ça le salut des chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Voilà la signification de Pâques. Nous allons simplement, et bien terminer, en remerciant le Seigneur pour sa grâce. Seigneur, nous voulons te bénir et te louer, Seigneur, parce que tu nous as montré, tu as mis en évidence, Seigneur, ce soir, en effet, Seigneur, cette image céleste du bouc émissaire et de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Oui, merci Seigneur, parce que tu as fait ce rapprochement. Et nous savons que tout cela a été rapproché en une seule et unique personne, le Sauveur du monde, à travers la personne de Jésus, l'envoyé de Dieu. Merci pour la croix. Merci Jésus d'avoir accepté volontairement de donner ta vie pour moi, pour chacun d'entre nous, pour les péchés, pour, en effet, la corruption du monde entier. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir parce que tes paroles sont suffisantes, non seulement pour nous rassurer, mais pour créer au fond de notre cœur cette joie et cette paix céleste que tout a été accompli, en effet, pour chacun d'entre nous. Tu nous bénis maintenant et nous voulons te remercier. Nous te bénissons de tout notre cœur parce que tu es vivant et à cause de ta mort, eh bien, à cause de ta mort pour nous, Dieu l'a ressuscité. Et nous croyons, Seigneur, que nous vivons, nous revivons, nous renaissons et nous ressuscitons en Jésus-Christ par la foi. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.